Et on en parle avec Marine Sylvestre, vice-présidente du syndicat des internes des hôpitaux de Paris. Bonjour, merci d'être avec nous. Et avec Anaïs, interne à la PHP, qui a été victime de harcèlement sexuel. Nous l'avons enregistrée il y a quelques minutes maintenant. Vous allez voir, elle témoigne de façon anonyme pour des raisons évidemment qu'on comprend. Première question que nous lui avons posée, de nous raconter ce qui s'est passé, c'était quand elle était externe au bloc opératoire. Écoutez.
Malheureusement, j'ai eu plusieurs anecdotes au cours de mon cursus d'externe ou d'interne. Mais effectivement, au cours de mon externage, j'étais en stage dans un service de chirurgie. Et donc, dans ces stages-là, on peut être en binôme avec un chef. Donc, j'étais désignée en stage. Et j'étais en binôme avec un chirurgien au cours de cette journée. Et au cours d'un interbloc, donc entre deux opérations, on peut être amené à retourner dans les bureaux. Et donc, je me suis retrouvée dans son bureau avec lui qui travaillait au départ. J'étais sur un fauteuil. Dans le bureau, et puis à un moment donné, il a fini par se rapprocher de moi, s'asseoir à côté de moi, à me fixer, et il a fini par me dire « Là, ce dont j'ai très envie, c'est que tu retires ta culotte. » Et je ne sais pas exactement combien de temps a duré ce moment. J'étais un peu tétanisée. Et je sais qu'il a pris fin parce que la personne qui partageait son bureau est rentrée dans la pièce.
Vous réagissez comment à ce moment-là ?
Je sais juste que je suis restée immobile et que j'étais complètement tétanisée.
Et vous ne pouvez pas en parler ? C'est un supérieur ?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a un rapport hiérarchique déjà de base qui peut instaurer un certain rapport de domination dans ce cas-là.
Et est-ce que vous avez l'impression qu'après avoir vécu cette situation, eh bien d'autres personnes vivent la même chose que vous?
Je pense que malheureusement, des personnes qui sont dans ce cursus ne sont pas étonnées, finalement.
C'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, on le sait, on les connaît, ces prédateurs.
Oui, il y a des personnes qui sont connues, d'autres moins. On sait qu'il peut y avoir des agissements, des gestes, des paroles, mais des fois ça va plus loin et ça, c'est pas forcément su.
Et vous vous prévenez entre vous ? Vous vous mettez en garde ?
Alors à l'époque où j'étais externe, pas forcément, parce que c'était vu comme des comportements un peu banals. Je trouve qu'aujourd'hui, les choses ont un petit peu changé et qu'effectivement, c'est pas considéré comme des comportements normaux et les gens se préviennent entre eux.
Ce qui est terrible, c'est que vous dites, à l'époque, tout ça était considéré comme des comportements banals.
Banal, drôle, ouais.
Alors que ça relevait de l'agression sexiste ou sexuelle.
Complètement. Parce qu'il y a des gestes également, hein, je pense qu'on est beaucoup à en avoir vécu également. Au-delà des paroles.
Mais ça concerne, j'allais dire, les médecins seniors comme les médecins moins âgés.
En tout cas, dès qu'il y a un rapport hiérarchique, effectivement, alors il y a probablement, les expériences que j'ai vécues, c'est avec des médecins seniors, donc jeunes ou moins jeunes, mais en tout cas qui sont chefs.
Est-ce que les mots de Karine Lacombe vont faire bouger les choses ? Est-ce que vous espérez qu'on fasse évoluer vraiment les choses ?
J'aimerais bien. J'aimerais bien. Le but, justement, de tout ça, c'est pas du tout les règlements de compte personnels. C'est de montrer qu'il y a des choses qui se passent, qui existent, et que des personnes peuvent potentiellement en souffrir et en pâtir dans leur cursus, alors qu'on est dans un lieu d'enseignement professionnel et de soins, et que c'est pas adapté.
Mais aujourd'hui, c'est toujours un stress pour vous d'aller travailler compte tenu de ce risque ?
Moi, alors d'aujourd'hui, je suis plus âgée dans mon cursus et je me sens beaucoup plus à l'aise et moins gênée par ces comportements. En tout cas, je les vis moins. Mais en tant que jeune interne et externe, oui, c'était compliqué. Ça pouvait être très compliqué dans certains endroits.
Voilà donc pour le témoignage d'Anaïs enregistré il y a quelques minutes. Marine Sylvestre, depuis la fin de la semaine dernière, est-ce que vous avez beaucoup de témoignages qui vous remontent de la part des hôpitaux ?
Alors, de la part des étudiants, principalement, des internes que je représente tout à fait, depuis l'appel de Karine Lacombe, on a eu une cinquantaine quasiment de cas qu'on a pu compiler sur la région, uniquement Île-de-France déjà, avec certaines spécialités qui sont plus représentées, les spécialités de chirurgie, d'anesthésie-réanimation, qui nous rapportent d'autant plus de choses graves.
C'est-à-dire
de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle, de chefs qui vont vous coincer un étudiant dans une chambre de garde, l'empêcher de sortir au début, et puis après se dédouaner en disant « Non, je rigole, tout va bien, c'est une blague. » Tout ça s'inscrit dans une mentalité, la mentalité carabine, cet humour qu'on a à la base qui nous permet de survivre un petit peu à ce qui se passe.
C'est important d'expliquer ce que c'est l'esprit carabin.
À la base, c'est plutôt un esprit de corps, c'est un humour pour nous permettre de gérer un petit peu ce qui se passe au quotidien, les souffrances qu'on voit tout le temps. C'était censé être cette aide-là qu'on avait, et ça a été un petit
C'est-à-dire des blagues, l'esprit carabin, c'est des blagues salaces, des comportements
C'est des blagues salaces, c'est des fresques pornographiques dans
des
les
fresques,
salles de scène.
Des fresques qui étaient dans les salles des hôpitaux. Elles y sont toujours.
Elles y sont toujours pour la plupart. Elles sont en train d'être repeintes en Île-de-France.
C'est-à-dire des fresques dans lesquelles on voit des scènes d'orgie.
Voilà, c'est ça. Voilà. Des scènes de viol figurées, des choses comme ça. C'est quelque chose qui peut choquer quand on est en dehors du milieu, ce que je comprends totalement, qui a été tellement intégré dans cette mentalité pendant tellement d'années que c'est difficile de s'en défaire. Mais les choses sont en train de changer et il était temps.
Mais est-ce que ça veut dire que les hommes, en fait, sous couvert de cette ambiguïté, se retranchaient derrière cette tradition pour abuser des femmes qui les entourent?
Pour la majorité des hommes, oui. Pour plus de 50% des supérieurs hiérarchiques directs, des étudiants en médecine, mais pas que. Il y a aussi les infirmiers, les sages-femmes qui en subissent. Et effectivement, on a tendance à se planquer derrière cet humour-là, en disant « Non mais, on rigole, tu sais bien comment on est ici ».
À tel point que c'était devenu banal. Enfin, on revient sur le mot d'anaïs, c'est quand même terrible.
C'est commun, et moi, ces propos ne me surprennent pas du tout. J'ai des dizaines d'histoires comme ça chaque semestre qui sortent à chaque changement de stage.
Mais enfin, d'abord, on n'en rigole pas.
Ouais, on n'en rigole pas.
Voilà. Et puis, ce sont des souffrances pour les.
C'est
les
des
femmes.
Souffrances au quotidien. Là, actuellement, si vous êtes une femme interne en médecine, vous avez une chance sur deux de vous faire agresser sur votre lieu de travail.
Une chance sur deux.
Aujourd'hui, sur les statistiques qu'on a, sur les Encore études nationales qui ont été menées entre 2017 et 2021 par nos différents syndicats, oui, ça serait une chance sur deux.
Marie.
On parle beaucoup du bizutage lors des études de médecine. Est-ce que c'est pas la continuité, tout simplement, de
ça s'inscrit tout à fait dans Smoothbone. Et je pense qu'on peut même aller plus loin en disant que si on a tant un problème de démographie médicale actuellement, c'est aussi parce que les études sont maltraitantes par notamment cet abord, que ça va dégoûter des jeunes étudiants et qui vont de fait partir et refuser de s'installer ou de pratiquer.
Est-ce qu'il y a des plaintes aujourd'hui qui vont être déposées? Parce que c'est vrai que c'était un tabou, tout ce qu'on décrit, c'est un... Tout le monde peut ou prou le pressenter, l'imaginer, sans intégrer que c'était sans doute évidemment une souffrance pour la plupart des femmes qui le subissaient. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des plaintes qui ont été déposées?
Il y a des plaintes qui sont déposées, elles sont rares, trop rares malheureusement.
Parce que les femmes ont peur?
Il y a énormément de risques de répercussions sur leur carrière, effectivement.
Parce que
C'est-à-dire une carrière hospitalière, c'est difficile à mener si on a voulu rompre
tout à fait.
Folklore.
Si on a dénoncé.
Encore hier, j'ai eu le signalement d'une interne dans une spécialité médicale qui me disait il s'est passé telle chose, c'était des faits de harcèlement sexuel, agression sexuelle avérée dans le service. Elle m'a dit je refuse d'en parler parce que c'est un petit univers, cette spécialité que j'ai. Tout le monde va le savoir et je serai grillée en Île-de-France.
Ça veut dire que les chefs de service, les mandarins, comme on dit, peuvent bloquer une progression.
Tout à fait.
Et là, on est à un tournant ou pas? On a une chance que le fait qu'on en parle autant, que Karine Lacombe, qu'une figure comme Karine Lacombe parle.
Je pense que tout l'enjeu se trouve là. C'est-à-dire que nous, quand on a essayé d'alerter en 2017, en 2021, par nos différents syndicats de différents niveaux, des étudiants plus jeunes, des étudiants moins jeunes, les choses bougeaient sensiblement à notre niveau. On s'alertait un peu plus entre nous pour dire « Fais attention, ce chef, il est connu pour ça. Cette chef, on sait qu'elle est un peu limite. »
Parce qu'il y a des femmes aussi.
Il y a aussi des femmes qui participent à ça. C'est le problème de l'humour carabin, en fait. C'est que ça se met dans toutes les tranches et dans tous les sexes et dans tous les genres. Donc, vous n'êtes pas à l'abri en soi. C'est une majorité d'hommes, plus de 50%, mais il y a quand même des femmes qui font partie du problème, effectivement, ou qui sont témoins et qui ferment les yeux. Mais la plupart de ces soucis, effectivement, là, remontent actuellement parce qu'il y a eu la parole de Karine Lacombe, que je remercie encore d'avoir eu ce courage un petit peu de témoigner. On sait que c'est pas évident, surtout à son niveau, mais je pense qu'elle est plus à une bataille près, donc voilà, on la remercie beaucoup.
Marine, est-ce que depuis vendredi, vous avez eu l'oreille de M. Frédéric Valletoux ou de Mme Catherine Vautrin?
Moi, personnellement, non, mais le syndicat national, l'ISNIC, qui nous représente, moi je suis en local à Paris, doivent le rencontrer le 29 avril prochain.
Bon, vous avez parlé d'une cinquantaine de témoignages à Grande Île-de-France. Oui. Vous avez un ordre de grandeur de ce qui peut se passer en province, parce que ça doit être la même chose.
Ça va être sensiblement la même chose, je pense. On est toujours très, très limité par ce mur de verre qui existe, où on se cogne au fait que les gens veulent témoigner, mais entre eux, ils veulent jamais nous rapporter les choses, oui, parce qu'ils ont peur aussi qu'on agisse et qu'on mette en péril leur carrière.
Est-ce que vous êtes soutenu par les hommes médecins quand même?
Il y a des hommes médecins qui nous soutiennent tout à fait, des chefs qui se positionnent là-dessus, notamment dans chaque spécialité, qui se portent garant de que les choses aillent mieux, notamment en anesthésie-réanimation, où ils ont lancé un dispositif avec les étudiants, le Clachard, qui a permis depuis septembre de mettre en exergue une quarantaine de cas en évidence, dont 22 circonstanciés écrits, qui mèneront peut-être à des points.
Voilà, l'élément important que vous donnez, c'est que ces agissements sont un frein, en fait, aux vocations.
Tout à fait. Si on veut commencer à résoudre le problème de la démographie médicale, il faudra à un moment ou un autre se pencher sur ce qui se passe pendant nos études.
Merci infiniment d'être venu sur le plateau de Première Édition. Merci pour votre témoignage.